Alors, vous voyez que j'ai chopé un grand enfant qui se promenait dans les couloirs, mais c'est intéressant d'interviewer les jeunes aussi. Donc, effectivement, la loi, les règles fondent l'autorité. Mais ce n'est pas tout. Les parents l'ont écrit et les grands-parents aussi. Il y a aussi des attitudes qui vont fonder l'autorité. Il y a un verset qui résume toutes les attitudes qui fondent l'autorité. C'est Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Donc, ce n'est pas deux choses qui s'opposent, la loi et les attitudes. On pourrait développer plusieurs points. Je vais peut-être en développer deux, la douceur et la joie. Thessaloniciens dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Là, on voit que même en tant qu'adulte, notre rôle et notre position doit être celle qui attend de l'autre qu'il comprenne la patience, la douceur. Redresser une personne qui a été surpris en faute dans un esprit de douceur, dit Galates. Proverbe 25, verset 13. Avec beaucoup de douceur, on peut enlever des obstacles. Alors, on va citer quelques obstacles. C'est quoi des obstacles ? Avec beaucoup de douceur, on peut enlever des obstacles. Ézéchiel parle des moutons qui étaient faibles, malades, qui avaient une patte cassée et auxquels on n'a pas rendu, qu'on n'a pas ramené vers le troupeau, mais qu'on a dominé avec dureté. Alors, deux exemples extrêmes. Le premier exemple, c'est la fragilité de l'enfant. L'enfant, c'est un être fragile, ne l'oubliez jamais. L'enfant ne peut pas recevoir des phrases que nous, en tant qu'adultes, on peut encaisser quelquefois qui sont dures. Il n'a pas le recul que les adultes ont. L'enfant est fragile. Faites attention à ce que vous dites à un enfant. Ça, à la douceur, peut enlever un obstacle. L'autre obstacle qu'il faut absolument enlever au niveau des enfants, c'est le contraire. C'est la toute-puissance. On sait bien qu'un enfant qui reste dans la toute-puissance ne peut pas grandir correctement. Quand il est bébé et qu'il naît, c'est normal. Il pense avoir une toute-puissance sur ses parents, puisqu'il lui suffit de pleurer pour avoir à manger. Et donc, il voit tout de suite qu'il a un pouvoir sur les autres. Mais en grandissant, il doit réaliser que ce pouvoir qu'il pense être si haut, il n'en est rien. Je n'ai aucun pouvoir sur les autres. Et être adulte, c'est comprendre que je n'ai aucun pouvoir sur les autres. Au contraire, le bébé quand il naît, il pense avoir aucun maîtrise de soi-même. Il pense être zéro. Et devenir adulte, c'est juste le contraire. C'est comprendre que Dieu veut nous à la maîtrise de l'île de lui. Donc c'est deux schémas inversés. Un autre qu'on peut développer ici, c'est la joie. Une bonne réponse donne de la joie. Une parole dite au bon moment fait du bien. J'ai raconté une petite expérience il y a 3 semaines. Je devais donner un cours à des adultes et la responsable de ce groupe m'a téléphoné en disant qu'il y a eu des soucis au cours précédent, qu'ils n'ont pas respecté l'autorité de la personne qui était là, du formateur, et que ça s'est très mal passé. Et donc elle m'a prévenue pour que je m'y prépare. Et je trouvais ça très drôle en pensant à ce message-là. Et j'ai prié, je dis, Seigneur, quel levier tu veux que j'utilise ? Ce point d'interrogation, il y a plein de choses, lequel ? Et en priant, j'ai compris la joie. Et je suis venue en leur disant, je suis heureuse de passer cet après-midi avec nous. On va partager des choses intéressantes. Et je leur ai dit une chose essentielle. Prenez du plaisir dans votre service. Vous êtes jeunes enseignants, prenez du plaisir avec vos élèves. C'est une chose essentielle, même si vous n'êtes pas encore fort en tout. Et ça, c'est un principe qui compte dans tous les services, que ce soit à l'église ou dans le travail séculier. La joie devrait toujours être supérieur au dysfonctionnement et au désagrément. Dans tous les services au travail, il y a toujours des dysfonctionnements, il y a toujours des désagréments. Dans la famille, l'enfant qui vomit la nuit, etc., il y a toujours des désagréments. Mais la joie doit toujours être supérieure au désagrément. Sinon, il faut se poser une question et se placer devant Dieu et dire, voilà, qu'est-ce que je dois changer dans ma posture ? Ésaïe 13, verset 3, parle de cela, alors pas concernant les parents ou les enseignants, mais concernant les soldats. Ésaïe 13 dit, quels sont les meilleurs soldats? Ceux qui s'entraînent bien au combat? Non. Les meilleurs soldats, c'est ceux qui se réjouissent de la victoire. Waouh! Ça veut dire que ce n'est pas une joie simple, c'est une joie que la foi produit. Voir l'enfant comme Dieu le voit plus loin et non pas voir les difficultés du moment. La foi produit la joie. Ça ne veut pas dire être naïf, mais c'est une position. Pour ceux qui ne croient pas que apprendre se fait dans la durée, lisez donc le livre de Jérémie. Dans Jérémie, on voit que Jérémie dit « J'ai prononcé les mêmes paroles, exactement les mêmes paroles, de la part de Dieu pour vous pendant 23 ans. » Si ça, ce n'est pas de la patience. Après, un petit point sur la communication. Parce que la communication que nous avons avec les enfants peut entraver ou peut construire notre relation. On parle beaucoup aux enfants. Et j'aimerais juste vous rendre attentive à différentes choses. Attention à la façon dont on parle aux enfants. Parlez à l'enfant sans accuser. Écoutez l'enfant sans l'interrompre. Valorisez-le sans comparer. Mettez en contexte sans généraliser. C'est-à-dire, plutôt que de dire « tu es toujours en retard », dites-lui « aujourd'hui, tu as été en retard ». Encouragez-le sans attendre la perfection. Expliquez les sanctions sans crier. Le verset phare concernant les enfants, tout le monde le connaît dans Éphésiens 6, verset 4. « Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. » Alors comment on fait pour ne pas les irriter et pour toutefois les élever en leur donnant des principes et des conseils qui viennent du Seigneur? Il y a un principe simple. Enlevez la deuxième partie de vos phrases. Je m'explique. Je te demande de t'asseoir. Ça suffit. Ne dites pas, je te demande de t'asseoir. Pourrais-tu faire les choses correctement une fois? Ça ne sert à rien. C'est accusé, blâmé. Je te demande de ranger ton portable. Et non pas, je te demande de ranger ton portable, sinon. Sinon, et après on ne sait pas les tenir, et après notre autorité est mise à mal. La menace, elle peut servir à court terme, mais jamais à long terme. Je t'interdis de me prendre ce livre des mains. Ça, c'est poser le cadre. Mais pas, penses-tu que c'était gentil de m'arracher ce livre des mains? Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais? Tout ça, enlevez-le. Jouer les martyrs. On peut dire aux enfants dans un groupe, « Ah ben aujourd'hui, vous avez beaucoup crié. » Oui, on peut le dire, mais ne dites pas derrière « Qu'essayez-vous de me faire, de me rendre malade, etc. » Alors, il y a des sourires. Donc, c'est vraiment Éphésiens 6, verset 4, c'est vraiment l'idée de poser le cadre, mais en n'attendant pas un dressage derrière, mais que l'enfant ait le temps. Peut-être donnez-lui des pistes pour aider à obéir. Peut-être il y a des parents qui sont très doués, qui donnent deux possibilités, où les deux sont intéressantes, en disant « Je te demande d'éteindre l'ordinateur. Tu as le droit de l'allumer une heure ce matin ou une heure cet après-midi, lequel tu choisis ?» C'est bien plus intelligent, parce que les deux réponses sont positives, vous voyez, plutôt que de rentrer dans un rapport de force. La communication. Le point suivant, je vais appeler Roselyne qui va nous donner un témoignage, c'est l'expérience et les connaissances. On n'aimerait pas que vous soyez culpabilisés en disant « Ouais, mais nous, on n'est pas enseignants et nous, on sait pas, voilà, on sait pas tout faire. » Rassurez-vous, moi non plus, je ne sais pas tout faire avec mes enfants et j'ai besoin d'apprendre des choses. Ce que la Bible nous demande, c'est une seule chose. C'est une personne qui écoute les leçons de la vie à sa place parmi les sages. Proverbe 15, verset 11. C'est pas un diplôme, c'est pas un niveau intellectuel. C'est si vous voulez bien apprendre des leçons de la vie. Et Dieu est capable, il le fait tout le temps, en tout cas pour moi, il le fait, de me placer dans des circonstances et des situations pour que je puisse apprendre là où je ne suis pas bonne et pour que je puisse apprendre. Donc, c'est ça l'idée. Et puis, un témoignage de Roselyne.
Voilà, bonjour à tous. Alors, la scène prend place au collège où j'enseigne, dans une salle de classe. Et puis, aujourd'hui, un élève s'est montré pénible, très pénible, et voire impertinent, et ceci malgré les nombreux rappels à l'ordre. Alors, pour éviter de hausser le ton, je décide de le convoquer à la fin de l'heure. Je lui dis, s'il te plaît, est-ce que voilà, tu restes, et puis on va en discuter. C'est pas vraiment un mauvais garçon, mais quand il s'approche, la mine renfrognée, quand un prof demande de rester en fin d'heure, c'est en général pas bon signe, évidemment. Sur son visage, on voit toutes les tensions qu'il vit. Il vit des tensions à la maison, il vit des tensions avec les camarades. Je sais qu'il porte beaucoup d'histoires. Alors à ce moment-là, je prie durant le cours aussi, avant qu'il s'arrête devant moi. Je prie pour que le Seigneur m'inspire, parce que je n'aimerais pas que ce moment se borne à une confrontation stérile entre la personne d'autorité, eh bien écoute, tu dois m'obéir, c'est comme ça, c'est les règles, et puis lui qui se borne dans son attitude, de toute façon j'ai pas envie du tout d'écouter le cours de maths, c'est pas intéressant, etc. Alors, je décide de commencer en lui demandant ce qu'il pense, lui, de sa séance, ce qu'il en a retenu, de la façon dont ça s'est passé. Et il est perplexe. Il est perplexe devant la question. Il s'attendait à avoir une avalanche de reproches, comme ça arrive souvent, malheureusement. Et il ne sait pas quoi répondre. Soit il dit, effectivement, qu'il a été trop loin, mais c'est beaucoup reconnaître et c'est difficile au début. Mais il sait, confusément au fond de lui-même, parce qu'il connaît les règles, il sait qu'il est allé trop loin. Alors je continue devant son silence et je lui demande, et je lui dis tout simplement comment moi j'ai vécu la séance, qu'effectivement, voilà, faut que ça se passe le mieux possible avec les élèves, mais que je retiens qu'on est parfois devant une situation difficile et on peut le vivre comme un échec, nous-mêmes en tant qu'adultes. Et à ce moment-là, je lui dis même que ça m'a peiné, que ce cours, la façon dont ça s'est passé, ça m'a peiné, moi aussi, pour mon attitude, parce que j'ai dû hausser le ton. De nouveau, silence étonné. Alors je lui demande finalement, comment est-ce que tu as évolué depuis l'année dernière ? Et alors à ce moment-là, ça lui ouvre l'esprit, il dit, vous savez, j'ai beaucoup évolué, j'ai fait des progrès, et ça je sais que c'est vrai, parce que c'était un enfant que tous les professeurs avaient en grippe, on a dû le changer de classe, et c'était difficile pour lui. Alors finalement, je relève tout ce qui était positif, et je dis, je sais que tu as beaucoup évolué, que tu fais des efforts, je le sens à chaque séance, on dirait que tu vas exploser, et tu te contiens, je le sais. Et le fait de reconnaître ces efforts, alors on commence à avoir une conversation vraie, et puis il y a un espace qui se dégage et on peut enfin discuter. Voilà ce que j'ai retenu de cette petite expérience, ces expériences se multiplient évidemment dans notre métier, mais c'est que premièrement, c'est important, voilà, c'est important de reconnaître ce qu'est l'autre et aussi ses capacités, ses qualités. Et ça ouvre d'autres espaces de discussion et d'évolution. Ça m'a frappé ce matin que nos enfants devant nous en classe, ça s'appelle des élèves. Et des élèves, c'est finalement du verbe élever. Bien sûr, on se laisse inspirer par Dieu. On n'est pas seulement un professeur, on est des enfants de Dieu. Et puis aussi que l'autorité, ça a été relevé beaucoup par Betty ce matin, ne passe pas forcément par la sanction, ni par le fait de crier, d'élever la voix. Au contraire, je pense que ça dégrade. Et enfin, la dernière chose, c'est que le fait d'être vrai, de dire à cet enfant, moi, j'ai vraiment eu du mal avec toi ce matin et je ne savais pas trop comment réagir. Le fait de reconnaître soi-même ses difficultés ce témoignage peut prendre place dans la famille, parfois même de demander pardon, de dire je suis allée trop loin à un enfant, à un élève. Ça, au contraire, je pense que ça pose autorité.
Merci beaucoup, Roselyne, pour ce magnifique témoignage. Magnifique témoignage. La dernière composante qui va construire la relation d'autorité, le dernier point d'interrogation, c'est comprendre que l'autorité ne s'exerce pas seule. C'est essentiel. Comi va nous en parler.
Bonjour. Le besoin pour une équipe, par exemple, qui exerce l'autorité chez les enfants, d'être cohérent, Je l'ai vécu en activité périscolaire. Et lorsque, pendant un moment, en tant qu'équipe, on a remarqué que les enfants ne respectaient pas certaines règles particulières. Et cela de façon systématique. Et ce qui n'était pas le cas pour les autres règles. Donc on se demandait, mais qu'est-ce qui se passait? Et c'est avec le temps que nous avons remarqué que les règles que nous appliquions en activité périscolaire n'étaient pas les mêmes que celles appliquées pendant les heures de cours. Et donc les enfants étaient un peu confus par rapport aux règles et aussi avaient chez eux une perception d'injustice, en particulier lorsqu'on leur demandait ou on leur refusait par exemple quelque chose qui était ailleurs autorisé. Donc on a pu avoir une réunion de concertation et harmoniser un peu les règles. En tout cas, ça a été très utile pour clarifier les choses chez les enfants et cela aussi soulager notre relation avec les enfants parce que à des moments, quand on essayait de les rappeler à l'ordre, ça devenait très très compliqué. Merci.
Merci pour ce témoignage important qui fait prendre conscience de l'importance que l'enfant doit avoir plusieurs figures d'autorité qui se complètent mais qui sont quand même dans une cohérence. C'est un bel exemple. La semaine dernière, quand on était à l'apéritif après l'Assemblée Générale, une personne a remercié une autre personne en lui disant « Je te remercie parce que quand ma fille était adolescente et qu'elle avait besoin d'une autre figure d'autorité que celle des parents, tu as été là pour dialoguer, pour discuter avec elle et ça lui a permis de se construire. » J'ai trouvé ce témoignage très 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 beau. Alors oui, par exemple, ce qui est aussi essentiel ici à l'église, puisque on parle quand même de l'école du dimanche, c'est aussi de comprendre pour les moniteurs ou pour les parents qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire, quand on est en bas avec les enfants, un moniteur ne doit pas se sentir seul. C'est ce qu'on dit aux nouveaux moniteurs, et peut-être que ça vous aidera à avoir envie de devenir moniteur. C'est-à-dire, on a une équipe, il y a un service accueil qui est là, pas seulement pour distribuer des badges, qui est là pour aider un enfant qui a peut-être besoin de sortir d'un groupe à un moment donné, pour se calmer, pour avoir un temps d'échange, comme Roselyne a témoigné, pour se calmer, se poser. On n'est pas seuls les moniteurs, il y a aussi une équipe de responsables. On n'est pas seuls les moniteurs, il y a les parents, on peut dialoguer avec eux. On n'est pas seuls, on a une équipe de pasteurs, on a une équipe de responsables, on est une église. Et c'est dans la cohérence éducative qu'on y arrivera. Pas dans autre chose. Alors, pour terminer, ceux qui veulent tout ramener à soi, il y a un exemple dans 3 Jean 9 qui dit « Dis au trèfle qui aime à tout diriger, ne tient aucun compte de ce que je dis. » Français courant. « Dis au trèfle qui aime passer devant les autres, n'accepte pas notre autorité. » Voyez bien que lorsqu'on accepte l'autorité de quelqu'un, lorsqu'on accepte l'autorité de Dieu, lorsqu'on se soumet les uns aux autres, eh bien, forcément, on entre dans une cohérence éducative. Alors pour terminer ce temps et pour conclure, c'est vrai qu'on n'a pas tout dit en trois quarts d'heure, c'est clair, de loin pas. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on a le Saint-Esprit qui veut nous aider. On a parlé des fruits de l'Esprit. Ce qui construit l'autorité, ce n'est pas seulement Dieu, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, c'est le fruit que Dieu produit, le fruit que l'Esprit Saint produit. Et là, on va pouvoir avoir un temps de prière pour dire « Oui, je sais que ça va durer jusqu'à ce que le Christ soit formé en moi, moi non plus. On n'est pas parfait. » Et les enfants n'ont pas besoin d'adultes parfaits, ils ont besoin d'adultes authentiques. Mais on va prier, on va chanter, on va avoir un temps de louange où j'aimerais qu'on apporte à Dieu les situations ou les relations dans lesquelles il y a une chose difficile actuellement et qu'on demande à Dieu que son esprit agisse en nous. Nous ne devons pas créer des enfants qui produisent un comportement des chrétiens, mais qui deviennent chrétiens. Donc peut-être, si vous avez une situation à cœur maintenant à laquelle vous pensez, eh bien, amenez-la à Dieu pendant ce temps de louange. Amenez-la à Dieu et présentez-la devant lui. Moi, j'ai un cahier où je note les choses. Je note les dysfonctionnements au travail et je dis, voilà, Seigneur, je te prie pour ça. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je te le présente et Dieu agit. Faites-le ce matin. Posez les choses et Dieu, par son esprit, va agir en nous. Galates 6, verset 9. Faisons le bien sans nous décourager. Il faut y aller, il y a du temps. Alors bien sûr, pour continuer, si on a besoin de temps, il y a des livres intéressants. Un livre chrétien intéressant écrit par le docteur Henry Cloud et John Townsend, « Des limites pour nos enfants ». Le titre parle de limites, mais il est bien plus riche que ça. Un autre livre très intéressant, qui est très connu en ce moment, « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Faber et Maslisch, très connus. Un autre livre par les éditions Viens et Voix, « Gérer les comportements difficiles », un petit fascicule, vous pouvez venir voir tout à l'heure. Lisez, cherchez et priez.